Radio Okapi encourage les jeunes talents congolais. Auteurs, compositeurs, interprètes, une adresse mail est à votre disposition. musique@radiokapi.net. Envoyez vos chansons. Après sélection, elles feront peut-être partie de la playlist ou d'une émission de Radio Okapi. Faites-vous connaître, des millions d'auditeurs vont écouter votre musique. musique@radiokapi.net. Allez-y, on vous attend.
Merci d'être branché sur Radio Okapi, la fréquence de la paix. Que dit la loi sur les gels des avoirs des personnalités publiques? Vous avez une personne physique ou morale peut voir ses biens être gelés pour une raison ou une autre. Tous les comptes et capitaux de la personne ou du groupe sont bloqués. D'après nos sources, cette décision des gels des avoirs est notamment prise pour le trafic illicite des stupéfiants, le blanchiment d'argent, le terrorisme ou la corruption. Alors, qu'est-ce que dit la loi à ces sujets, sur cette décision qui est le gel des avoirs? Maître Ruffin Louko, vous êtes juriste et chercheur et écrivain en droit. Encore une fois, bonjour. Et bon début de semaine.
Merci, pareillement, et à tous nos auditeurs également.
Alors, qu'est-ce dit la loi sur le gel des avoirs?
Alors, bon, comme toujours, commençons par l'école. Qu'est-ce dit la loi en RDC depuis 60 jusqu'à maintenant? On peut même remonter à 1885, l'arrivée du blanc chez nous. Rien du tout. Rien du tout. La loi dit quoi? Rien du tout.
Rien du tout. Rien la du loi est muette.
En ce qui concerne les gels, les avoirs, rien du tout. Alors, lorsqu'il faut gratter, par-ci par-là, pour essayer de rapprocher, trouver quels sont les textes ou les indications qui renvoient à quelque chose qui pense à ça. Alors, lorsque vous avez la Constitution prévoit que pour toute personne appelée à des charges publiques,
il doit déclarer ses avoirs.
En particulier le ministre. Les mandataires et consorts, avant d'entrer en fonction, ont l'obligation constitutionnelle de déclarer leurs avoirs. Pour que, parce que ce sont ceux-là qui sont appelés à gérer la chose publique, et dans la chose publique, c'est là où passent les capitaux de l'État. Les revenus de l'État passent entre leurs mains. En conséquence, lorsqu'ils entrent en fonction, ils doivent. C'est une obligation qui remonte des Rome antiques.
Ils doivent déclarer leurs avoirs.
Passant par la France, en passant par la Belgique et tous les pays occidentaux, depuis longtemps, chez eux, on doit déclarer les avoirs. Pour que l'on sache, vous avez fait un mandat de 5 ans, qu'est-ce que vous avez pu accumuler? Parce que, historiquement, on a considéré que c'est toujours à l'occasion de l'exercice des charges publiques que subitement des personnes se retrouvent à avoir obtenu des ressources énormes. Prenons un exemple. Il a été bourgmestre, même si je sais que dans certaines villes, beaucoup de bourgmestres ne sont pas payés. Je prends l'exemple comme ça. Par exemple, il a été bourgmestre, il touchait, disons, l'équivalent franc congolais de $500, l'équivalent franc congolais, et on le voit, 5 ans après, il a des fermes, des véhicules de luxe,
des immeubles.
Bon, je ne parle même pas des immeubles, parce qu'on le voit avoir, n'est-ce pas, accumulé des richesses. Dans l'orthodoxie financière, il faut donc que la déclaration de revenus soit actée et selon notre constitution devant la Cour constitutionnelle, la Cour suprême à l'époque, Cour constitutionnelle aujourd'hui, les greffiers actent vos déclarations.
Donc il faut amener des preuves, vous amenez par exemple voici les documents parcellaires.
Vous devez amener
vous
des
présenter.
Vous devez amener
dans mon compte, vous amenez l'extrait bancaire.
Le ministre Luxor, on a même établi un formulaire, un projet de formulaire pour que vous conformiez à ces formulaires-là. Vous avez 5 maisons, voici. 5 parcelles ou fermes, voici les preuves. Vous devez, parce que nous avons vu dans le pays des premiers ministres avoir fait 4 ans. Et on apprend que nous, 54 maisons. Il y a un député qui avait fait une enquête là-dessus. Dans 4 ans, 54, et pas les moindres, pas des petites bicoques.
C'est
mais,
normal.
Mais, alors, vous avez dit c'est une obligation constitutionnelle.
Constitutionnelle.
Lorsqu'on arrive, on accède
c'est
à des fonctions publiques.
C'est pour éviter, parce que ouais. dans le monde entier, on accepte plus que quelqu'un qui a exercé le service public oui. se retrouve subitement avec d'énormes ressources.
Mais les gels, maintenant les gels.
Alors
les
maintenant, avoirs. Non, oui. j'y arrive. Donc j'ai dit en grignotant, en grattant par-ci par-là,
Oui.
On a par principe, on n'a pas retrouvé. On a retrouvé qu'il y a une indication. C'est la déclaration des ressources. Alors, la déclaration des ressources renvoie à quoi? Renvoie au fait que si vous avez accumulé anormalement des déchets, c'est ce que vous ne pouvez pas justifier, il y a une possibilité de vous poursuivre pour enrichissement sans cause. De remettre l'État dans ses droits parce que on présume que cette anormalité-là d'accumulation des richesses doit être fait au dépens, donc au détriment du trésor public.
Ça, c'est prévu dans la Constitution de la République.
Ça, c'est prévu dans notre Constitution.
Oui.
Pour que lorsque vous sortiez, on puisse vous rattraper. Mmh. Mais maintenant, dans les relations internationales, voilà, là, nous mettons le pied. Dans les relations internationales, entre les nations, si cela nous l'avons hérité, ce n'est pas venu de nous, hein, la déclaration des ressources. Mmh. C'est venu d'autres pays, parce que dans d'autres pays, c'est déjà net, vous ne pouvez pas avoir d'accumulation. Pourquoi on a rattrapé la FIFA avec ses dirigeants? Parce que finalement, l'argent circulait dans des comptes des millions de dollars sans aucune explication, donc sans aucun libelle. Donc vous voyez seulement dans les comptes d'aujourd'hui tomber 20 millions de dollars.
Il n'y a pas de traçabilité.
20 millions de dollars, il n'y a pas de libelle. Donc 20 millions sont tombés, il n'y a pas de libelle. Et c'est ainsi que donc on a rattrapé tous ces dirigeants de la FIFA pour tout simplement ces énormes sommes sans aucune explication. Alors, dans le monde international des finances, c'est déjà la circulation des capitaux est maintenant réglementée. De telle sorte que lorsqu'on remarque que dans votre compte ou dans votre initial, parce qu'il y a les comptes qui est à votre nom, je dis Kachama, et moi j'ai ajouté qu'en Kolongo, j'ai dit tout non. Alors si on peut faire une sorte de... Parce que dans le monde de comptes en banque, il n'y a pas de nom, je dis. Dans la finance internationale, ce sont des codes. Alors on peut savoir que non, je dis Kachama utilise le code Alpha Bravo Sierra, par exemple. Alors, si dans ton code là,
et on constate, le compte est approvisionné de manière anormale.
De manière anormale. Anormale, ça veut dire, on présume que je dis Kachama, il travaille, disons, à la Banque mondiale, il travaille au ACER. Et là, son salaire est de 150 dollars. Et qu'on retrouve que dans 6 mois, je dis Kachama vient de voir son compte être approvisionné à 500 000 dollars. Donc, il n'y a pas de commune mesure, comme on dit à la cité, matisatée par rapport à ses revenus et à ses versements. En conséquence, les pays, dans les relations internationales, se reconnaissent le droit pour exercer une pression sur un pays quelconque, pour qu'il agisse dans tel devoir. Par exemple, on lui demande de démocratiser, comme on l'a fait à tous les pays africains en 90. Démocratiser. Ou bien on dit non, vous devez organiser les élections. Ou bien vous devez associer tel groupe à l'exercice du pouvoir. Ou bien vous devez accorder, je parle des exemples, vous devez accorder à notre entreprise tel marché. Vous devez, n'est-ce pas, cesser d'alimenter tel groupe armé. Donc, le pays tel veut que cet autre pays puisse exécuter une volonté à lui, à ce pays-là, il a le pouvoir d'exercer des mesures de rétorsion ou des mesures de pression. Et parmi ces mesures,
le gel des avoirs.
Il y a le gel des avoirs. Ou bien, les boycottages.
Alors, cette pression, dans quelles conditions on peut recourir au gel des avoirs?
Alors, mais ces conditions-là sont absolument subjectives à chaque nation. L'Union européenne a ses propres conditions, les États-Unis ses propres conditions. Les Nations Unies, ça veut dire l'ONU, ses propres conditions. L'OIA, aujourd'hui devenue l'Union africaine, ses propres conditions. Donc, ces conditions-là ne sont pas universellement reconnues. Ce sont les nations, les organisations internationales, les organisations régionales qui ont des conditions pour mettre la pression sur chaque pays. En fait, n'est-ce pas, par exemple.
Mais le droit international lui-même, qu'est-ce qu'il dit,
c'est-à-dire là, je suis dans les relations internationales. Donc, c'est là que je suis parti puiser, n'est-ce pas, l'explication du gel des avoirs. Alors, l'on considère tout simplement, par exemple, pour mettre la pression sur l'Al-Qaïda. Une organisation qui se réclame être au service, n'est-ce pas, de la lutte, selon elle, n'est-ce pas, cette organisation, la lutte pour mettre fin à l'impérialisme. L'impérialisme dit non, non, cette organisation était une organisation terroriste. Ça veut dire pour tuer les gens innocents, pour la plupart, qui ne sont pas concernés par la chose et qui sont comme ça sacrifiés. Quels sont les moyens de pression que nous faisons? Nous gérons les avoirs. Partout, ils ont des comptes en banque, nous gérons. Et pour mieux gérer ça, vous voyez, les États-Unis passaient par les Nations Unies. Parce que les Nations Unies, c'est l'organisation mondiale. Donc, lorsqu'elle prend une décision ou une résolution, elle engage toutes les nations et toutes les nations doivent, n'est-ce pas, contribuer à son exécution. Alors, on prend des décisions du gel des avoirs de telle organisation pour qu'elle soit totalement étouffée. Donc, en ce qui concerne notre pays, lorsque tel pays qui nous... Parce qu'il faut... Ce qu'on appelle la Troïka traditionnelle en RDC, la Troïka traditionnelle chez nous, c'est la Belgique, la France et les États-Unis. C'est ça, là, le pays qui nous a accompagnés depuis l'indépendance, depuis même avant l'indépendance, jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est ça, le pays qui, dans les relations internationales de notre pays, la RDC, ceux qui sont les plus concernés par tout ce qui se passe chez nous, c'est la Troïka, France, Belgique, États-Unis. Alors, ces pays-là considèrent, et ça, nous étions en train de les stigmatiser sur cette antenne, que le fait que nous ayons laissé notre pays être en épanchement de la communauté internationale, ainsi que son budget à 50%, ne nous laissera pas tranquille. Le fait que nous nous contentions de dire, nous avons un budget de 1 milliard, ou de 15 milliards, ou de 10, et sur ces 10 milliards-là, la communauté internationale doit contribuer à 50%, c'est une catastrophe pour le pays. La conséquence, c'est que celui qui contribue à votre budget ne laissera pas la bouche fermée lorsqu'il a d'intérêts qui sont menacés d'une manière ou d'une autre chez vous. Alors, ce qui concerne l'état actuel de notre pays, c'est que l'organisation d'élections a eu lieu en 2011. La Constitution prévoit que, n'est-ce pas, les prochaines élections, c'est en 2016. Alors, pour eux, qui nous ont accompagnés depuis San City, même bien avant, en passant par la transition, en passant par les premières élections de 2006, élections de 2011, ils estiment, il y avait même le comité de suivi ici des résolutions de San City.
Oui.
Alors, ils considèrent que non, ils ont un droit de regard sur tout ce que nous faisons. Aujourd'hui, nous pouvons crier, mais ils considèrent qu'ils ont un droit de regard. Alors,
certains parlent même de l'ingérence.
Rien à faire.
Les affaires,
c'est d'ailleurs, mais c'est devenu interne. Même un droit d'ingérence légitime. En ce qui les concerne. Nous ne pouvons pas les refuser.
Le droit international prévoit
la non-ingérence.
La non-ingérence, c'est ce qui est...
C'est ça le principe. C'est prévu même dans, n'est-ce pas, le statut de l'OIA.
Oui.
La non-ingérence dans les affaires intérieures des États. C'est prévu également dans le statut des Nations Unies. Mais ce principe est devenu plus ou moins, comme on appelle ça, désuet, ce principe. Parce que tout simplement, il est tombé en désuétude parce que c'est prévu la non-ingérence, mais les pays s'ingèrent au jour le jour dans les affaires des nations, d'autres nations, et nous voyons nos gouvernements se plient continuellement. Nous avons vu dans notre pays combien on s'est ingéré. Maintenant, nous avons des brigades dans notre pays qui sont chargées.
Et quand on gèle des avoirs comme ça, c'est aussi, on peut dire que ça rentre dans le cas de l'ingérence.
Rien à faire.
Dans les affaires intérieures. Rien.
D'abord, c'est dans l'ingérence pire et simple. Parce que là, par exemple, si l'on doit revenir chez nous, le gel contre un général, qui est le commandant de la police de la capitale. Et lorsqu'on le cible, lui, donc ça veut dire, on veut nous mener dans une guerre où les mains de la République sont liées, parce que la capitale est le moteur principal de l'ordre public de la République. Alors, lorsqu'on gèle les avoirs, bon, encore faut-il nous dire si effectivement il y avait des avoirs dans ces comptes. C'est une autre question. On peut en parler.
Donc quand on parle de ces avoirs là, il s'agit de l'argent.
Non, les avoirs c'est principalement des comptes en banque.
Des comptes en banque.
Généralement des comptes en banque.
Oui.
Et si la personne est dans les affaires, donc ses affaires aussi.
On bloque.
Tout est bloqué pour que la personne ne puisse pas bouger. Mais on peut considérer que c'est tellement, comme j'ai dit au départ, que c'est trop subjectif, parce que c'est l'État qui décide.
D'accord. Je reviens à vous dans quelques instants, Maître Ruffin.
Parce qu'on aurait dû d'abord terminer le décor.
Et puis, on va accueillir deux auditeurs qui sont déjà là. Qu'est dit la loi sur les gels des avoirs des personnalités publiques? Clément Mouya nous appelle de Mbujimaï et Albert Mwananga nous appelle de Kananga.
Okapi Retro fait revivre les tubes des années 60, 70 et 80. Rumba, pop, disco, Slow, des heures de musique congolaise, africaine, européenne et américaine. Le dimanche soir de 19h à minuit, le lundi et le mardi de 21h à minuit. Avec les mix de DJ Daddy.
Que dit la loi sur le gel des avoirs des personnalités publiques? Maître Ruffin nous a dit tout à l'heure que la loi congolaise est muette à ces sujets, mais cela est pris en charge par le droit international et par la Constitution, qui parle de la déclaration des biens des personnalités publiques. Clément Mouya, vous nous appelez des Mboujimaï, bonjour.
Bonjour à l'invité.
Quelle est votre question, Clément?
Moi, je voudrais d'abord remercier l'invité parce que il a été aussi pertinent par rapport à son allocution, mais c'est que je voudrais un peu m'insurger en faux, c'est que quand il parle de l'ingérence du droit international ou de la communauté internationale dans les affaires privées d'un État, moi, je dis un peu faux parce que quand la loi internationale, parce que lui est expert en la matière, la loi internationale a la primauté sur la loi interne d'un pays. Et si la loi internationale prévoit qu'il faudrait geler les avoirs d'un pays membre d'une communauté internationale, c'est-à-dire que cette loi a la primauté sur la loi interne d'un pays. Et si vous voulez voir, ce gel est fait sur les gens qui sont au pouvoir dans la plupart des cas. Et prenons l'exemple le plus récent du général. Le général, la sentinelle de l'État. Et cette sentinelle de l'État, si nous pouvons un peu voir dans son avoir, ou dans son salaire, ou son solde, il ne peut pas peut-être faire un équivalent en francs congolais de $500. Mais aujourd'hui, on entend qu'il a les avoirs dans les comptes étrangers. Mais pourquoi ne pas mettre ses avoirs dans les comptes internes de notre pays, mais il veut investir ailleurs? C'est comme ça que nous sommes en train de pleurer, et c'est comme ça que la communauté internationale, qui intervient de temps en temps pour cette pauvre population, qui se meurt du jour au jour.
Clément, quelle est la question que vous adressez directement à Maître Ruffin?
C'est là la question que je vais à la question.
Allez-y,
et c'est comme ça que la communauté internationale trouve qu'il est opportun et nécessaire qu'on gèle. Pourquoi lui, l'avocat, voudrait s'insurger en faux par rapport à ce gel? Parce que la loi internationale a la primauté de la loi interne d'un pays. Voilà un peu ma petite question que je voudrais poser.
Merci Clément. Albert Mwananga de Kananga, bonjour. Et quelle est votre préoccupation?
Bonjour Monsieur Jody et bonjour à notre invité Maître Ruffin.
Bonjour.
Oui, l'intervenant qui vient de parler tout à l'heure, je pense, a pris quelque chose que je devais aussi ajouter.
Alors, passez à...
comparativement aux sanctions contre notre général Kanyama, d'avoir, les États-Unis, d'avoir bloqué ses avoirs, j'aimerais que notre invité expert à la matière puisse un peu nous éclairer là-dessus, parce qu'on parle de l'atteinte à la souveraineté nationale, tout ça. Donc, que notre invité puisse un peu nous éclairer là-dessus pour l'atteinte à la souveraineté nationale. Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième, j'aimerais un peu poser la question à notre invité. Pourquoi nos autorités congolaises ici ne font pas confiance à nos propres banques, pour booster le développement du pays?
Merci Albert. Charles Kisimba de Lumbashi, bonjour et quelle est votre question?
Bonjour Jody, bonjour mon aîné maître.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Bonjour. Oui, mes petites préoccupations sont les suivantes, parce que je l'ai compris dans son introduction, il a parlé aussi de l'enrichissement illicite. Alors j'aimerais savoir qui sera habilité à faire le bilan de ces biens après son mandat d'avoir été, par exemple, bourgmestre, gouverneur ou ministre, et j'en passe. Et la deuxième préoccupation, pourquoi les gouvernements en place s'intéressent trop à l'enrichissement illicite des opposants politiques? Alors, c'est ça un peu mes petites préoccupations. Bonne fête de l'indépendance. Bonne journée.
Merci, Charles Kisimba. Maître Ruffin, vous avez la parole.
Merci beaucoup pour toutes ces questions et l'intérêt que vous manifestez, vous exprimez à cette émission. On va répondre directement par la question d'Albert Mwananga qui a dit pourquoi les dirigeants ne font pas confiance à nos banques, n'est-ce pas? Bon, d'abord, en ce qui concerne les dirigeants qui ne font pas confiance à nos banques, je crois que c'est pas vrai. Maintenant, les choses ont changé. La bancarisation permet à savoir que tous nos dirigeants ont des comptes chez nous. Ils sont payés dans ses comptes, donc par le trésor public, via ses comptes. Ils sont donc, n'est-ce pas, bancarisés.
Alors, dans le pays. La bancarisation. Mais maintenant, comme la loi congolaise est muette par rapport au gel des avoirs, peut-on geler alors les avoirs d'une autorité qui se trouve dans une banque locale?
Ah, bien sûr, bien sûr. Non.
Parce que la loi n'a rien
prévu. Mais maintenant, pour geler les avoirs d'une autorité nationale logée dans des banques nationales, il faut la contribution de notre gouvernement. Parce que l'exécution doit se faire par notre gouvernement. Donc c'est notre gouvernement qui doit décider. Tout le monde fait confiance à nos banques. Mais quand est-ce qu'on ne fait plus confiance à nos banques? Lorsque l'avoir est énorme. Lorsque c'est une grosse ressource. Admettons, vous aviez votre salaire. Pour ceux qui ont les députés qui ont peut-être 5, 6 000, je ne sais pas combien. 6 000.
Mais dans son compte.
Mais dans ton compte maintenant. Il y a une opération, généralement quelconque, qui fait que vous puissiez recevoir 2 millions d'ICO. Là, ça devient hors du commun. Et parce que l'argent n'aime pas le bruit, et l'argent n'aime pas beaucoup de regards, généralement, lorsque c'est beaucoup, la personne dit non, ça va
loger tout le monde.
Il ne faut pas loger ça. Donc, lorsque ça devient anormal, la personne dit non, autant que ça est anormal, autant que non, le pays ne puisse rien contrôler. Donc, souvent, nos comptes sont logés à l'étranger parce que ce sont des sommes énormes. En ce qui concerne maintenant les cas qui nous concernent ici, le gouvernement qui a décidé, les États-Unis, ne nous a rien dit. Lorsque vous allez sur le site, vous n'avez ni l'indication sur le montant, depuis du fait que ça court dans tous les sens, que c'est autant, ni l'indication sur le montant, ni l'indication sur la banque concernée. Donc ça semble être la poudre aux yeux par rapport à la décision, parce qu'on ne sait pas le contenu. Et avoir même les enquêtes, nous savons que le général Kalama, récemment, le seul voyage connu qu'il a effectué, c'était en Europe, c'était à l'Union Européenne. Il était parti dans la formation, n'est-ce pas, le renforcement des capacités de notre police. Point être. Aux États-Unis, bon, c'est vrai, on peut loger des comptes aux États-Unis avec
on a pas assez d'informations.
Pas des commissionnaires et d'intermédiaires.
Oui.
Mais nous savons officiellement que général Kanyama n'a pas effectué récemment des voyages aux États-Unis. Mais ça n'exclut pas que de l'argent à son nom puisse, l'argent circule sans des jambes. Sans de prendre. Mais il circule. Donc l'argent est en mesure de faire ça. Mais nous savons qu'officiellement, lui n'a pas fait de déplacement. Alors donc, bref, la décision semble officiellement. Il faut donc qu'on nous dise c'était combien et c'est arrivé là-bas.
Et Albert dit que on parle de l'atteinte à la souveraineté nationale. Et là, d'après la loi, comment peut-on qualifier cela?
Non, c'est-à-dire en fait, l'ingérence est totale. L'ingérence est totale en ce qui concerne. Donc, j'explique ça. Alors, je crois que l'auditeur est en train de suivre. Nous ne pouvons pas rêver et être naïf et en laissant la communauté internationale contribuer à 50% à notre budget national et que nous lui demandions de fermer la bouche. Comme on dit, fermez-la. Non, il donne de l'argent, il contribue à notre existence.
Oui.
Les élections de 2006, c'est la communauté internationale qui a contribué, paix à son âme, à l'abbé Malumalu qui les a organisées. Qui a donné l'argent? À autant de pourcentages, c'est la communauté internationale. Nous sommes dans un processus où il faut qu'on relève la tête.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Notre loi, la législation congolaise doit évoluer, parce que vous avez dit la loi est par rapport au gel des avoirs.
D'ailleurs, il n'y a que nous, le Congo, qui soit capable de geler les avoirs même d'un Zimbabwéen ici. Nous ne pouvons même pas gérer les avoirs d'un Brazzavillois ici.
Il n'y a pas de texte là.
Il n'y a pas de texte. Nous le ferons de la manière la plus arbitraire. Non, c'est Brazzavillois là, la grosse tête. Nous gérons ces avoirs. Nous n'avons aucun texte. Chez nous, les textes qui protègent la République évoluent lentement.
Donc, mais Clément a dit tout à l'heure que le droit international a la primauté sur les lois internes du pays. Donc, d'après
il a raison.
Que c'est pas la non-ingérence.
Il a raison. Si ces droits internationaux annoncent ces règles-là, sont des règles comme par exemple.
D'après lui, c'est pas l'ingérence, je voulais dire.
Tout à fait. Non, il a raison sur le principe. Donc, les conventions internationales régulièrement ratifiées, c'est consacré par notre constitution, ont la supériorité. Donc, sont supérieures à nos lois lorsqu'elles sont régulièrement ratifiées. Mais ça, c'est une convention internationale, c'est-à-dire c'est déjà adopté par toutes les nations et nous ratifions. Où nous avons été à la rédaction. Ici, nous avons parlé des règles sous-régionales, des règles de grandes puissances qui les imposent à tous. C'est dans les relations internationales. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas une réglementation commune à toutes les nations, parce que s'il y avait une réglementation commune, nous aurions les gérés, les avoirs au Congo de tous les interahamwe ici.
Nous sommes même incapables de gérer les avoirs des interams ici. Qui ont des comptes à la Biak, Goma, Bukavu, Kisanga. Nous sommes incapables de gérer les avoirs des interams qui tient nos compatriotes chaque jour. Les ADF n'ont l'eau 30 ans ici. Nous sommes incapables de gérer même les avoirs de Mukuru. Parce que tout simplement, il n'y a pas de législation. Donc, là, si, oui. Ce sont les grandes nations qui se font ces textes. Et qui les impose.
Les conventions internationales dont nous sommes aussi signataires. On a
ratifié. Ils se font ces textes, j'ai dit. Les États-Unis a des textes là-dessus. La France a ses textes. L'Union européenne a ses conventions.
L'Union africaine.
L'Union africaine également. Mais nous, Congo, nous n'avons pas de textes sur les gènes des
enfants. On va accueillir Patrick Ikomo sur, qui nous appelle de Kinshasa. Bonjour, Patrick.
Et on n'a pas répondu à toutes les questions.
On va répondre. On vous écoute, Patrick.
J'ai ma petite question à demander à l'invité.
Oui. Oh, désolé. Il n'est plus là. Il va sûrement nous rappeler. Voilà. On passe aux questions de Kissimba de Lumbashi. Le bilan, est-ce que à la fin de l'exercice d'une autorité, on peut faire le bilan de ses avoirs? Et il dit, on s'attaque seulement aux opposants. L'enrichissement illicite des opposants, alors que de l'autre côté, et il y a aussi, il peut y avoir aussi un enrichissement illicite.
Oui,
il parlait des gels des avoirs.
Bon, en principe, ce n'est pas sélectif. Hein. Donc, la constitution, en ce qui concerne la constitution, c'est pas sélectif. Bon, vous voyez par exemple aujourd'hui, on parle d'un opposant par rapport à ses avoirs, mais nous sommes incapables de geler ses avoirs parce qu'il n'y a aucun texte qui le prévoit. Ça ne doit pas être sélectif. Donc c'est toute autorité. La Constitution parle des autorités et spécifie en ce qui concerne les ministres, les mandataires et consorts qui n'ont avant d'entrer en fonction. En particulier, les ministres doivent déclarer leurs avoirs et toutes les autres autorités, président de l'Assemblée, gouverneur et consorts. Déclarer les avoirs pour que l'on sache, et ça vraiment il faut que la loi puisse être adoptée en ce qui concerne l'exécution de cette disposition constitutionnelle pour qu'il y ait une commission nationale, ça peut être parlementaire ou interinstitutionnelle, pour que chaque fois, avec des magistrats, lorsque la personne a cessé ses fonctions, on évalue. Il a déclaré à l'entrée, autant, il a des maisons. Lorsqu'on constate, comme pour les cas qu'on a cités, que maintenant, 4-5 ans après, il a 54 maisons, l'on doit savoir obtenir des explications. Des explications.
Mais par exemple, quand la communauté internationale gèle les avoirs...
Parce que tout simplement, la communauté internationale constate que la personne s'est enrichie anormalement. C'est une autorité publique, où qu'il soit... Mais l'enrichissement n'est pas expliqué. C'est pourquoi...
Mais on dit souvent, on gèle les avoirs en cas de trafic des stupéfiants.
C'est ça le principe.
Blanchiment d'argent.
En ce qui concerne les conventions
terrorisme,
internationales.
Terrorisme, corruption.
En ce qui concerne les conventions internationales sur la corruption, en particulier sur le blanchiment d'argent. Sur le blanchiment d'argent, les avoirs sont gérés lorsque la communauté internationale constate que telle autorité, vous allez dans les pays comme le Sierra Leone, les pays ex-colonies portugaises de l'Afrique, n'est-ce pas? Vous y trouvez des anciens chefs d'état-major général, n'est-ce pas, ou généraux, et des grands officiers de l'armée qui se sont reconvertis après la fonction dans les stupéfiants, dans le business de toutes sortes. Et qu'ils blanchissent leur revenus là, dans des écoles, dans des agences quelconques,
des
dans
immeubles, l'immobilier,
dans des banques.
Et dans les transports en commun.
Or, la communauté nationale qui a assez de moyens et assez d'agences pour surveiller est au courant de la source. Et là, les conventions internationales prévoient les gels pour bloquer les flux, n'est-ce pas, des domaines exploités qui est lui-même illégal et criminel. On gèle les avoirs. Bon, nous savons également
que... Et souvent, on gèle pour combien de temps?
Bon, c'est souvent sans délai. C'est pourquoi j'avais même dit dans l'émission passée qu'il faut faire attention à la présence des agences, parce que c'est santé qu'il se faut entendre les premiers, les agences comme le Amnesty International, le Human Rights Watch, une grande écoute à l'extérieur. Et vous verrez que dans cette décision ici de gel, d'un général, au lieu qu'on... d'un commandant de la ville, au lieu de geler d'un ministre et consort, ou d'un grand député, tout ça, je ne sais pas quoi, c'était général et consible, c'est ce même général que des agences avaient ciblé auparavant. Donc, ceci explique cela. Nous savons qu'encore, à cause du même rapport de Human Rights Watch, le gouvernement britannique avait suspendu également sa coopération en ce qui concerne la formation de nos officiers de la police, il y a quelques mois. C'est toujours ceci explique cela. Donc, ces agences sont
mieux écoutées.
sont écoutés plus même que les gouvernements. Lorsqu'ils crient chez nous que telle chose ne va pas, ils ne font pas seulement passer à, oh non, ça, non, vous contrôlez, oh, vous êtes sévère. Non. Essayons de corriger. Essayons, n'est-ce pas, de voir ce qui nous va. Parce que nous, on défend. Le mal des mères, on ne le corrige pas. Oh non, nous défendons, nous démentissons, mais le mal est là, il faut corriger.
Faut corriger.
Parce que par exemple, on nous reproche aussi le Kuluna. Le Kuluna, nous l'avons repoussé dans ces pays dans les années 2007 à 2012 sans qu'il y ait eu des reproches quelconques, parce que nous organisions des procès.
Sans vous interrompre, alors lorsqu'on gèle vos avoirs, et est-ce qu'il y a alors il y a des démarches à entreprendre entre-temps pour arriver à dégeler, si on peut
le
dire ainsi.
C'est totalement arbitraire. Il n'y a même pas de voie de recours.
Il n'y a pas de voie de recours.
Il n'y a pas de voie de recours. Donc, non seulement
les conventions internationales n'ont rien prévu.
Il n'y a pas de voie de recours. Il n'y a pas de voie de recours. C'est le gouvernement là qui estimera à un certain moment que non, ok, nous, vous vous rappelez, on avait gelé les avoirs des rebelles ici chez nous. C'est à vie. On nous avait imposé l'embargo des armes. Depuis Laurent Désiré Kabila, nous sommes en 2016, cet embargo est resté sur l'étendue du territoire, même sur le gouvernement on a essayé d'assouplir, mais sur l'étendue du territoire, cet embargo demeure jusqu'à aujourd'hui.
Mais quels sont les cas des gels, des avoirs qui a déjà eu dans notre pays, par
exemple? Shimana, le représentant des FDLR, on a gelé ses avoirs par le gouvernement allemand. Et Taganda, on avait gelé ses avoirs. Kunda Batware également. Donc, c'est quelques cas. Mais les officiels, rarement, on a gelé les avoirs des officiels. Je crois donc qu'on aurait dû être juste de les faire par rapport à ceux qui considèrent comme état commanditaire au lieu de les faire contre les exécutants. C'est pourquoi ces mesures sont le plus largement arbitraires, surtout qu'il n'y a pas de recours et on ne sait pas quand est-ce que, n'est-ce pas, on va lever ces mesures, parce que lorsqu'on gèle vos avoirs, et si vos avoirs n'étaient que dans ces pays-là, c'est la cour de coup, donc vous êtes totalement étranglé.
Mais vous êtes étranglé.
Vous êtes totalement étranglé parce que vous ne pouvez ni y toucher, ni personne d'autre pays toucher. Donc c'est pourquoi nous aimerions qu'évidemment le gouvernement puisse demander d'éclaircissement par rapport, parce qu'on va crier tout simplement sans nous dire c'est combien qu'on a gelé, et c'est si bas de quoi, c'est juste une pression pour exercer la pression au gouvernement et qui
pourra pousser les femmes. On peut aussi geler les avoirs d'une personne morale, d'une entreprise.
Ah, bien sûr. Bien sûr, la plupart des cas, mais par exemple, Al-Qaïda, c'est une personne morale. Soit-elle criminelle, mais c'est une personne morale.
Oui.
C'est une personne morale. Et puis, je peux citer l'État islamique et toutes les organisations, Hezbollah et consorts. Ce sont
les organisations terroristes.
Par exemple, on peut les appeler toutes. Elles réclament d'être injustement mises sur cette liste par rapport au fait qu'il n'y a qu'une seule autorité qui a décidé. Mmh. Et que leurs causes, par exemple, les organisations palestiniennes estiment que leurs causes sont légitimes et que l'on doit revenir sur la décision de les classer sur cette liste-là. Mmh. Le problème du classement sur la liste ne tient compte que des intérêts subjectifs de ces nations-là. Par exemple, on peut considérer que le mouvement comme d'autodéfense populaire, comme ce qui s'est d'organisé à Kinshasa, devient aussi un mouvement terroriste.
Alors quand, par exemple,
ces mouvements-là défendaient l'intégrité
de décide de geler les avoirs d'une personnalité, d'un
quelconque.
Pays, quelconque. Alors maintenant, ces capitaux-là vont revenir à qui?
Ah voilà.
On a gelé.
Ah,
et
voilà.
Après, qu'est-ce qu'on va faire de ces capitaux?
Voilà la bonne question, moi, évidemment. Ça peut donner la leçon à toute autorité. Et nous sommes contents parce que depuis un certain temps, même s'ils ont volé, mais ils ont construit au pays. Nous avons des hôtels partout, nous avons souvent ce sont des grands bâtiments d'hôtels et des bureaux et consorts, parce que la deuxième République, tout le monde a mené ses avoirs à dehors. Et on a tiré la leçon, tout le monde a été chaudé par le fait que le maréchal, à sa fuite, il avait, selon la presse internationale, 14 milliards, et on a retourné à sa famille par la Suisse, que 6 millions de francs suisses. Des 14 milliards qui ont été gelés à 6 millions de francs suisses. Et tout le reste s'est volatilisé. Ça, c'est la mafia internationale qui fait que vous y amenez votre argent, vous accumulez. Mais lorsqu'il arrivera, et puis la plupart de ceux qui ont amené leur argent à l'étranger n'ont pas survécu à l'argent. Et sont morts avant, et l'argent... Je ne vais pas citer d'exemple. L'agitat volatilisé. On peut parler de Kadhafi. De Saddam Hussein. Saddam Hussein. C'est parti des milliards d'argent. Et personne est capable de mettre ces gouvernements-là, principalement britanniques, français et américains, Bozongi Sambongo. Personne est capable de demander aux géants de rembourser l'argent du dictateur qu'il a logé à l'étranger. Donc, conclusion, ces sommes qui sont gelées,
rarement, ça vient lui aussi, ça,
ça s'est volatilisé. D'ailleurs, je vous dis que lorsque déjà l'argent est énorme, ça vient avec les diamants, de Lunda, Norte, consorts.
C'était beaucoup d'argent.
Beaucoup d'argent et dans beaucoup de pays. Volatilisé. Ok, de ses enfants n'est à mesure même de demander.
Donc, quand on gèle, c'est-à-dire que c'est
quand fini. Quand on gèle, c'est parti faut, pour la gloire, donc, croiser les bras, prier Dieu parce que ça sera, le Seigneur viendra un jour quelconque. Souvent, lorsqu'on gère les avoirs, donc, ça c'est la jurisprudence de la gestion des avoirs, du gel des avoirs.
Mais par exemple, pour le cas du maréchal, vous avez dit que c'était de 14
à milliards. 6 millions.
À 6 millions.
De francs suisses.
Et sur quel, sur base de quel principe on a remis ces 6 millions? Est-ce que la famille avait introduit, il y a eu des recours entre temps?
Non, mais d'abord, c'est le ministère de la Justice qui était en train de suivre les 14 milliards. Le ministère de la Justice, à l'époque, avait envoyé et l'auditeur général militaire et l'auditeur général, le procureur général de la République. Tous y sont rentrés les mêmes bredouillés. On a dit non, donne-nous des preuves. Nous savions, par la presse spécialisée, la presse d'investigation, que c'était environ 14 milliards. Mais, comme la personne n'est plus, lui qui connaissait tous les codes et tous ces intermédiaires, les avocats français qu'il a utilisés, qui vous connaissez, d'origine libanaise, tout ce qu'il a utilisé, l'ont fermé, ça veut dire, ils la ferment parce qu'ils savent les différents codes et ce sont eux qui sont utilisés pour la dilapidation. Vous, la famille, ne connaissant rien du tout, votre père n'ayant travaillé ou opéré qu'avec des commissionnaires qu'il a créé ses hommes de confiance, c'est l'opacité totale. La famille n'avait aucune preuve et, comme on le fait avec les maisons cellulaires ici qui donnent à l'État l'impôt qu'ils même déclarent, ils ont dit non, il ne nous reste que 6 millions. Nous ne connaissons que 6 millions. C'est trop cher. Donc c'est ce qu'ils ont déclaré, qu'ils ont donné. Et c'est partout comme ça. Si vous faites une pression pour réclamer quelque chose, on va vous dire que nous ne reconnaissons que
$200. Alors, dans ce cas, maître Ruffin, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour que notre loi prenne en charge ces genres de situations?
D'abord, première chose, il faut qu'absolument nous puissions relever la tête. La communauté internationale, nous ne devons pas la laisser continuer à prendre en charge 50% de notre budget. Ça ne va pas. Lorsque vous lisez le rapport, du Conseil spécial chef de l'État en ce qui concerne la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance, il a dit que non, nous perdons chaque année 15 milliards qui passent dans la corruption et les détournements. Si nous pouvons nous organiser, si nous pouvons obtenir de l'aide pour canaliser cette somme,
ces 15
milliards qui sont volatilisés dans la corruption et les détournements, nous n'aurons plus besoin de la communauté internationale en ce qui concerne notre budget. C'est important. Tant que la communauté internationale est là ici, en train de contribuer à 50%, son droit d'ingérence est légitime. Il continuera à s'ingérer, il vient à la présidence, il va à la primature, il va partout, avant de prendre des décisions, mais non, attention, c'est pas possible. Il va continuer tout simplement parce que c'est son thé qui donne l'argent, la main qui donne l'argent, c'est la main qui commande.
C'est la main qui commande.
C'est une loi naturelle, ça se fait partout, dans des couples, dans des écoles, tout celui qui donne l'argent, c'est lui qui décide en définitive des causes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire?
Arrêter l'hémorragie. Arrêter la corruption.
Arrêter l'hémorragie de la contribution de la communauté internationale en ce qui concerne notre budget et organiser toutes nos institutions, parce qu'il y a une institution importante qui ne contribue à rien en ce qui concerne la lutte contre la corruption, c'est la justice. La justice qui devait lutter, nous l'avons déjà dit plusieurs fois, contre la corruption elle-même, comme on a dit, la sentinelle est maîtrisée, anéantie. Lorsque la sentinelle est anéantie, ceux qui sont dans la maison,
c'est fini.
Il n'y a pas d'espoir.
Il y a plus de problème.
Donc, la justice doit contribuer de lutter contre la... Parce que chez nous, nous l'avons dit plusieurs fois, tant que la justice ne va pas braquer ses caméras sur les grands gestionnaires, elle ne servira à rien, elle ne sera que la justice des petits Koulouna, elle sait à cravate.
Maître Ruffin, donc, juriste et chercheur écrivain en droit, merci.
Je vous en prie. Et bonne journée pour tous les auditeurs.
D'accord.